Claude Landman, on assiste aujourd'hui à la dégradation du lien social. Vous avez une approche de la question plutôt psychanalytique. Pourquoi cette dégradation et comment l'abordez-vous ?
C'est une grande question. Chacun, en effet, assiste aujourd'hui à cette dégradation du lien social qui va de pair, me semble-t-il, c'est la première remarque que je souhaiterais faire, avec la délégitimation de la loi. La loi qui, pendant tout un temps, fut incontestée, est aujourd'hui, après une longue période d'évolution historique, est aujourd'hui une loi qui paraît délégitimée. Et il y aurait tout à fait lieu de s'interroger sur les raisons qui ont fait que la loi, aujourd'hui, n'a plus d'autorité. Elle est contestée, et elle est contestée au nom de ceci, qu'elle interdirait la jouissance de chacun selon son souhait, et selon ce qu'il serait amené à partager d'un fantasme avec d'autres.
C'est-à-dire que la loi aujourd'hui ne sert plus de repère pour construire.
Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que l'autorité de la loi n'est plus reconnue ? Je me suis intéressé à la question à partir du statut de l'étranger, considérant que le statut de l'étranger, l'accueil qui lui est fait dans une société, est un bon indice des rapports de cette société avec la loi. Si on prend la question sur un plan historique, le statut de l'étranger, au départ, lorsque la loi était incontestée, était un statut tabou, à la fois sacré et impur. Et on en a des exemples aussi bien dans les sociétés dites primitives, puisque l'étranger, le premier étranger à incarner la loi fut l'animal sous la forme du totem. Mais on retrouve ce statut sacré de l'étranger dans la Grèce archaïque, où le meurtre de l'étranger était le seul meurtre qui était puni automatiquement de mort. Nous le retrouvons évidemment dans tous les textes révélés, le statut de l'étranger, puisque les statuts de l'étrangère, bien entendu, puisque je ne ferai pas référence ici plus longtemps aux disciples d'Emmaüs, mais c'est tout de même sous la forme de l'étranger que les disciples d'Emmaüs ont pris le Christ. Et puis, je pourrais évoquer Ruth et puis tant d'autres qui ont toujours, n'est-ce pas, dans les textes révélés, figuré l'étranger sur un mode à la fois le plus souvent sacré et parfois impur. Donc, il me semble que la question du statut de l'étranger est éminemment liée au rapport qu'une société entretient avec la loi et avec la légitimité de la loi.
Et aujourd'hui, on assiste par rapport à l'étranger à une défiance.
C'est vrai. Je dirais à des tas de niveaux, pas seulement l'étranger qui vient d'une autre contrée, voire d'un autre continent, mais également peut devenir étranger un proche, quelqu'un qui est pratiquement à la même nationalité, voire même la même famille, la même origine familiale. Nous assistons aujourd'hui à une multiplication du caractère menaçant de l'étranger, du caractère menaçant de l'autre plus généralement, du fait des phénomènes qu'on pourrait dire ségrégatif. C'est-à-dire que chacun, chaque communauté se réunit autour d'un fantasme partagé et ceux qui ne partagent pas ce fantasme sont immédiatement menaçants parce qu'ils menacent que ce fantasme suppose, n'est-ce pas, de jouissance possible pour un groupe.
Est-ce qu'on peut dire que finalement la différence n'est plus vécue comme un trésor ?
La différence est non seulement plus vécue comme un trésor, elle est vécue comme une menace. Et une menace immédiate, privatrice.
Alors comment l'expliquez-vous ? Et à partir de quoi ? Quels en sont les effets ?
Il s'agit de commencer à penser ce que pourrait être une explication du phénomène. Je crois que nos cadres traditionnels, d'une certaine façon, défaillent aujourd'hui. Nous avons une difficulté à penser ce phénomène aujourd'hui, parce que probablement il nous sollicite au-delà de ce que sont nos catégories de pensée.
Alors quand vous dites « il nous sollicite au-delà de nos catégories de pensée », à quoi pensez-vous ?
Je pense à ceci que notre époque méconnaît quelque chose que les anciens connaissaient très bien à propos de notre rapport à la loi, et qui était que notre rapport à la loi est intimement dépendant de notre rapport au langage. Je pourrais dire que bien entendu, en citant les textes révélés, au commencement était le Verbe dans l'évangile de Jean, mais également, si on se réfère à la Genèse, Dieu a commencé par séparer les eaux supérieures des eaux inférieures, les ténèbres de la lumière, et ensuite il a mis en place en quelque sorte la structure qui permettait l'émergence de la parole, que la lumière soit. Autrement dit, ce qui est dit là dans les textes révélés sous une forme métaphorique me paraît être de nature à nous faire penser que nous avons, nous humains, un lien organique avec le langage et avec ses lois. Et qu'à méconnaître les lois du langage qui nous déterminent, qui nous font vivre, aimer, nous positionner dans la vie, je crois que nous oublions ce qui est fondamental pour nous, notre rapport au langage. Et je crois que si nous pouvions commencer à penser ce qu'est organiquement l'essence de notre rapport au langage, je crois que nous pourrions peut-être commencer à avoir un petit éclairage sur les phénomènes auxquels nous assistons, dont on peut dire qu'ils sont d'une certaine façon la radicalisation d'un oubli du rapport qui est le nôtre aux lois du langage. Les Grecs avaient parfaitement la conscience de ceci, qu'il dépendait du logos, du langage au sens large, qui veut dire aussi bien la parole, le langage, que la loi, que la raison.
Est-ce que vous pourriez donner un exemple aujourd'hui de cette dégradation du langage ?
C'est un fait objectif qui concerne éminemment la jeunesse. Il y a presque aujourd'hui de nouvelles langues qui émergent, par exemple sous la forme du SMS. Il y en aurait bien d'autres, mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la violence, qui est évidemment le phénomène majeur auquel nos sociétés sont confrontées, eh bien la violence, elle apparaît toujours lorsque le langage et le rapport au langage fait défaut. C'est l'acte qui se substitue à la parole.
Et aujourd'hui, cette dégradation du lien social, elle s'exprime par cette violence, par cette agressivité ?
Tout à fait, et je pense que c'est probablement parce que nous ne savons pas transmettre ce que nous pourrions transmettre aux plus jeunes, et qui est cette tempérance, cette mesure que nous donne une perception juste de notre rapport au langage. C'est-à-dire, c'est aussi la façon dont nous parlons, tout simplement, dont nous nous exprimons. Et ça, je crois que les jeunes sont sensibles à ça. Quand les paroles sont justes, ils les entendent.
Quels sont les enjeux et comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Les enjeux sont majeurs. Le premier des enjeux, c'est celui de savoir si une société peut survivre durablement lorsque le lien social se délite, puisque le langage, c'est aussi le lien social. Nous ne sommes liés, nous, que par notre rapport au langage. Notre vie sociale dépend de nos échanges, et les échanges sont essentiellement des échanges qui sont ceux qui se produisent par la parole.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette dégradation est due aussi à un manque d'appartenance, un manque d'identité, qui fait que, comme vous le disiez, on ne sait plus se situer dans le monde ?
C'est exact. La question de l'identité, ou de la perte de l'identité, est tout à fait liée à cette dégradation du lien social. En ce qui concerne les raisons, il est bien certain, avec la crise dans laquelle nous entrons aujourd'hui, il est bien certain que nous en apercevons quelques-unes des raisons. Assurément, le système économique dans lequel nous vivons, qui a absolument, avec la mondialisation, tout réaménagé et surtout tout bouleversé. Il est certain que les mouvements de population qui se sont produits et qui se produisent encore avec le remaniement économique en cours produisent ces pertes d'identification ou ces crispations sur des identités.
Comment est-ce que l'on peut changer ? À partir de quoi ?
Si nous prenions la mesure de ce qui constitue le lien social, donc si nous méconnaissons notre nature, eh bien nous la détruisons. Le langage, c'est notre niche écologique. C'est ce que nous habitons, le langage. C'est notre demeure.
C'est notre demeure et en même temps, la terre aussi est notre demeure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réappropriation de ce qu'est la terre qui nous est donnée ?
Nous ne pouvons la respecter que si nous commençons à respecter ce dans quoi nous habitons, qui est aussi, et peut-être même d'abord, le langage.
Le langage, certains n'y ont pas droit. Je pense aux malades, aux handicapés mentaux. Et je pense, en vous interrogeant, à Jean Vanier, qui a fondé l'Arche et qui accueille ces malades qui n'ont pas droit au langage. Et pourtant, à travers ce qu'il a fondé, il entrevoit d'autres possibilités de communion et d'altérité.
Je crois que chacun, quel qu'il soit, dès lors qu'il est humain, habite le langage. À partir du moment où il habite le langage, a-t-il droit à la parole? Ça, c'est une vraie question. Mais je crois qu'il serait intéressant de distinguer les deux, parce qu'à partir du moment où on considère qu'un humain, quel qu'il soit, l'habite, même s'il l'habite difficilement, je crois qu'à ce moment-là, on peut se préoccuper de savoir comment lui donner, lui permettre d'accéder à la parole, c'est-à-dire à quelque chose qui fait qu'en tant que sujet, et non plus seulement en tant qu'être dépendant et plus ou moins mortifié par le langage, qu'en tant que sujet, il pourra prendre et accéder à la parole.